Dans un billet publié sur le site Telos, Gérard Grönberg et Pasquale Paschino reviennent sur l'entretien croisé que Dominique Schnapper et moi-même avons donné au Monde. Ils m'y accusent en particulier d'avoir mis gravement en cause le régime représentatif, je m'y rendrai coupable de vouloir modifier profondément le fonctionnement de notre régime politique en donnant la parole au peuple. Il présente pour le démontrer toute une série de citations en prenant soin de laisser de côté ou de minorer d'autres passages où j'affirme mon attachement à l'autorité et à la légitimité du suffrage. La légitimité du suffrage et de la représentation n'est pas en cause, où je défends qu'il n'est pas question de donner aux conventions citoyennes le pouvoir de décider pour autrui. Ces conventions n'ont pas le pouvoir de légiférer des élus, et il n'est pas question de le leur donner, et où j'affirme que le pouvoir d'arbitrage final des discussions appartient aux élus. Le dernier mot revient aux élus. J'ajoute que je ne propose dans cet entretien aucune révision substantielle de la Constitution en dehors d'une limitation des instruments de rationalisation du parlementarisme qui y figure afin de poursuivre l'effort entamé en 2008 à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Dès lors que je ne prétends pas vouloir donner à la rue ou aux conventions citoyennes un quelconque pouvoir de décider, que je ne conteste pas la légitimité des élus ni ne propose de la mettre sur un pied d'égalité avec d'autres formes de légitimité, pourtant réelles à mes yeux, et que je ne propose aucun grand soir constitutionnel, je vois mal qu'on puisse trouver dans mes propos les ressorts d'une profonde modification de notre régime politique. Grönberg et Paschino ont à l'évidence avec moi des divergences d'analyse sur la définition du peuple ou de la légitimité démocratique, mais elles ne me paraissent pas de nature à justifier une conclusion aussi radicale et catégorique. Ce n'est d'ailleurs pas celle à laquelle semble être arrivé Dominique Schnapper lors de notre échange. Que m'est-il donc reproché? Au fond, le seul reproche consistant qui me soit adressé est de vouloir ouvrir la fabrication de la loi aux citoyens, ce que Grönberg et Paschino formulent improprement de la façon suivante, faire intervenir le peuple directement dans la fabrication de la loi. Le nœud de l'affaire réside dans la proposition que je fais au sujet des conventions citoyennes, ou plus exactement de la fonction que je leur prête. Le point n'est d'ailleurs guère nouveau, ces analyses figuraient déjà dans mon livre, Le Parlement des citoyens, La République des idées seuil, 2021, et elles avaient déjà suscité une première controverse avec Dominique Schnapper puis Gérard Grönberg. Selon moi, les conventions citoyennes, mobilisées à l'initiative de l'exécutif afin de rendre un avis normatif sur diverses questions, hier, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui la fin de vie, ont bel et bien vocation à concourir à la fabrication de la loi. Ce n'est d'ailleurs pas une opinion personnelle à ce stade, mais une description de la réalité. De fait, le rapport de la Convention citoyenne pour le climat a alimenté le processus législatif qui a suivi, le gouvernement reprenant certaines propositions, et en écartant d'autres avant que le législateur ne s'empare à son tour du texte. La loi climat et résilience adoptée à l'été 2021 reprend ainsi des propositions portées par les conventionnels, notamment les zones à faibles émissions, le principe du zéro artificialisation nette, le malus au poids pour les véhicules particuliers les plus lourds, l'obligation de rénovation thermique faite aux propriétaires bailleurs et bien d'autres choses encore. Il est difficile de ne pas convenir que les membres de la Convention ont ainsi concouru à la fabrication de la loi. Dans le cas de la Convention sur la fin de vie, le travail des participants a également vocation à éclairer le processus de fabrication de la loi, comme le note Alain Claise, ancien député et membre du CICIEN. Un projet de loi devrait en effet être déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement dans ce sens dans les prochains mois, et il semble que les conclusions des conventionnels n'y seront pas totalement étrangères. La question qui leur était posée les plaçait d'ailleurs explicitement sur le terrain de la discussion législative. La lettre de saisine de la Première ministre leur demandait d'examiner le cadre légal existant. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Elle précisait explicitement que les conclusions de la Convention citoyenne serviraient à éclairer le gouvernement. Elle indiquait enfin que les ministres compétents reviendraient vers les citoyennes et citoyens participants pour les informer des suites qui seraient données à leurs travaux et, dans l'hypothèse d'une évolution du cadre légal demandé aux législateurs, les éclairer sur la prise en considération de leurs réflexions et recommandations. Parce que le travail de ces conventionnels s'intègre dans un dispositif à finalité explicitement législative et parce qu'il consiste à produire un avis politique et non seulement technique ou expertal, je conclus que ce travail peut être décrit comme un processus de construction de normes de type pré-législatif. On peut déduire de là que je souhaite faire intervenir des citoyens directement dans la fabrication de la loi. Si c'est bien de cela qu'il s'agit, je l'assume et le revendique sans difficulté. J'attire cependant l'attention du lecteur sur deux points. Le premier est que je dis bien des citoyens et non le peuple, comme le suggèrent Grönberg et Paschino dans leur billet. Je fais en effet une différence entre une assemblée de citoyens tirés au sort et représentatifs de la diversité sociale, d'une part, et le peuple dont parlent mes contradicteurs. Car je distingue, moi aussi, entre le tout, fût-il divisé, et la partie, fût-elle le reflet de la pluralité du pays. Le second point est que ces conventions citoyennes ne sont pas l'œuvre de nouveaux héros du peuple, mais d'un président de la République démocratiquement élu. Si crime il y a, j'en partage donc la responsabilité avec ceux-là même qui ont initié ces processus, en l'occurrence, le chef de l'État et la chef du gouvernement. Curieusement, c'est une dimension du problème que ne soulèvent pas Grönberg et Pasquino mais qui est d'une importance capitale, je n'ai jamais proposé que l'initiative de tels processus échappe aux mains des représentants élus. C'est même une condition pour qu'ils puissent pleinement concourir au processus de formation de la loi. Si ce qui vient d'être exposé suffit à constituer le crime de lèse-représentation qui m'est reproché, je veux attirer l'attention sur une circonstance sans aucun doute atténuante et qui a manifestement échappé à mes contradicteurs. Ce crime a déjà été commis par le passé sans que personne n'y trouve à redire, pas même les plus ardents défenseurs de l'orthodoxie électorale représentative. Il y a 25 ans déjà, les 20 et 21 juin 1998, se tenait en effet à l'Assemblée nationale une conférence de citoyens consacrée à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, OGM, dans l'agriculture et l'alimentation. Cette conférence de citoyens était d'ailleurs organisée à l'initiative d'un organe parlementaire, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Comble de l'outrage, l'avis rendu par les citoyens se mêlait de recommander l'interdiction des gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques, l'amélioration de l'étiquetage des produits contenant des OGM et la mise en place d'une législation relative à la responsabilité en matière de produits OGM. Inspiré par ce type d'exemple et par l'observation de processus analogues à l'étranger où il ne vient à l'idée de personne d'y voir une entrave au régime représentatif, j'ai proposé que les conventions citoyennes puissent se tenir au sein de l'Assemblée nationale et à son initiative, et que l'on expérimente à cette occasion des panels hybrides, citoyens et parlementaires, à l'instar de ce qu'ont fait nos voisins irlandais il y a quelques années. Mais cela ne change rigoureusement rien au fond de l'affaire, sinon à la symbolique, à mes yeux positive, d'un Parlement plus ouvert aux citoyens et capable d'interagir avec eux. Il est vrai que j'ai poussé un peu plus loin le bouchon en écrivant qu'il serait légitime qu'au moment de délibérer, le législateur justifie son choix de retenir ou d'écarter telle ou telle proposition de la Convention citoyenne. Il me semblait que c'était là la moindre des civilités démocratiques. Mais on peut se passer d'expliciter cette exigence, elle s'imposera naturellement d'elle-même, comme en témoigne la lettre de saisine de la Première ministre citée plus haut. En somme, je ne crois pas avoir ici mis gravement en cause le régime représentatif ni appelé à modifier profondément le fonctionnement de notre régime politique. Ces reproches sont à mes yeux manifestement erronés et je ne peux m'empêcher d'y deviner, sinon de la mauvaise foi, au moins l'effet d'une crispation anxieuse devant le mouvement du monde et des sociétés. Je prétends même que les propositions que j'avance sont de nature à renforcer la démocratie représentative et à y faire venir un peu de cette confiance qu'il est en train de la quitter. Pour finir, je veux répondre à une question que me posent Grönberg et Pasquino. De quelles compétences s'agit-il, lorsque je dis que les citoyens n'abandonnent jamais la totalité de leurs compétences dans le vote ? Je veux parler des compétences qui sont visées à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si tous les citoyens ont le droit de concourir à la formation de la loi, c'est bien parce qu'on leur prête la compétence non seulement de désigner leurs représentants mais de s'intéresser personnellement au contenu même de la loi. Cela signifie que les citoyens peuvent avoir quelque chose à dire qui intéresse la fabrication de la loi et qu'il peut même arriver que ce quelque chose soit intéressant et pertinent. Les rédacteurs de la Déclaration de 1789 n'ont d'ailleurs pas écrit le peuple, mais bien tous les citoyens. On peut gager que ce genre de distinction n'échappait pas à leur sagacité. Ils n'avaient sans doute pas l'idée claire d'un processus qui donnerait corps à cette ouverture, pas même celle du référendum moderne, mais ils en avaient ressenti la nécessité profonde et finalement logique. J'invite sur ce point mes savants contradicteurs à lire l'article remarquable que le constitutionnaliste Denis Barranger vient de consacrer à l'interprétation de ce fameux article 6.